Je vais reprendre un peu la question de la cure psychanalytique rêve éveillé, en particulier autour de deux points délicats, les mécanismes de défense et le transfert. Alors, les mécanismes de défense sont des systèmes sur lesquels je reviendrai plus longuement et en détail, mais leur présence et leur fonctionnement est simple à comprendre. Ils ont pour but d'empêcher que l'on soit encombré jour et nuit par la douleur liée à certains traumatismes, afin qu'on puisse continuer à avancer dans notre vie. Parce que chaque fois qu'on se rappelle ça, et par exemple pour cette femme qui avait été violée par son père et son frère étant enfant, ben maintenant quand elle a retrouvé les souvenirs et que ça lui revenait comme des flashs, c'était insupportable. Cette violence, la honte, la douleur, le sentiment de ne pas exister, la souffrance qui se marquait même au niveau de son corps. Donc vous imaginez, quand c'est une enfant qui a ces représentations-là, c'est tellement violent que du coup ça serait destructeur si le psychisme continuait à les avoir tout le temps, la nuit, le jour. Et alors à ce moment-là, il se met en place un système qui consiste à oublier. Il y en a d'autres, il y a des tas d'autres systèmes, mais le principal, vous le connaissez, c'est le refoulement. Ça consiste à oublier la scène. Donc, je ne me la représente plus. Si je ne me la représente plus, si je ne la vois plus, si je n'y pense plus, à ce moment-là, tous les affects très destructeurs, très brutaux, très morcelants, qui vont avec la scène, n'ont plus lieu de me submerger. Donc le refoulement sépare l'affect et la représentation. La représentation est oubliée, et les affects, ils continuent à traîner là, ils sont là dans le corps. Ce sont des énergies qui ne savent pas trop où se mettre, qui souvent se mettent sous une forme de somatisation ou d'angoisse ou de choses comme ça. Mais l'intérêt du mécanisme de défense, c'est que du coup, eh bien, je peux continuer à grandir malgré que je me sois heurté à quelque chose qui a été véritablement traumatique. Je pourrais pourtant m'en souvenir, puisque c'est pas sous la barre de l'amnésie infantile, comme avec cette femme qui avait 8 ans, mais j'oublie pour pouvoir continuer à vivre. L'intérêt, c'est donc ça, l'intérêt des mécanismes de défense. Mais l'inconvénient, aussi, c'est que du coup, ça enfouit la représentation traumatique qui reste vivante en dessous. Un peu comme si on mettait un plâtre sur un abcès, et on sait que c'est la pire des choses à faire. Et ça fait quelque chose là-dessous qui est toujours présent et qui cherche même à se faire entendre, mais qui cherche à se faire entendre d'une façon biaisée, puisque le moi ne veut pas en entendre parler. Donc l'inconvénient du mécanisme de défense, c'est qu'il nous éloigne de la source de nos symptômes, alors que c'est justement cette source qu'il faudrait retrouver et terminer, assécher, pour pouvoir libérer le reste, quoi. Or, on a des tas de mécanismes de défense. Par exemple, il y en a un qui consiste à donner une bonne raison à ce qu'on fait, alors qu'on le fait pour d'autres raisons non conscientes. C'est ce qu'on appelle la rationalisation. On pourrait trouver un exemple un peu amusant, mais qui est assez significatif de notre manière de fonctionner. Au début du siècle, c'était la grande période de l'hypnose, dormez, je le veux, l'hypnose en force. On aurait pu, par exemple, hypnotiser quelqu'un le matin, lui dire, voilà, ce soir à 20h, où que tu sois, tu prends ton parapluie et tu l'ouvres. Et puis on lui a sorti de « tu oublies que tu as reçu l'ordre ». La personne dans la journée ne sait pas qu'elle est porteuse de cet ordre, ne sait pas qu'elle a été hypnotisée, ne se rappelle plus de rien. Et quand il arrive 20h, alors qu'il fait une chaleur à mourir et qu'elle est dans une conférence par exemple, eh bien discrètement elle va prendre son parapluie et elle va l'ouvrir. Alors on va lui dire « mais c'est fou là, qu'est-ce que tu fais ?» Pourquoi tu fais ça? Et la personne va trouver une bonne raison. Elle va dire, oh, il fait tellement chaud que ça va tourner à l'orage, donc certainement qu'on va avoir besoin de parapluie, et je me demandais si le mien n'était pas cassé. Donc elle va dire un truc qui va justifier son comportement, alors que son comportement a une origine radicalement différente de ce qu'elle se raconte. Mais bien sûr, il y a quand même des signaux qui indiquent qu'elle est en train de se perdre. Parce qu'en même temps qu'elle dira ça, elle aura des palpitations, elle aura des sueurs, elle ne sera pas très bien dans son corps. Un peu comme si son corps disait, non mais attends, tout ça c'est faux. Il y a quelque chose en elle qui sait que c'est faux. Mais au niveau du conscient, ça raconte que c'est comme ça. Eh bien, il y a un certain nombre de choses dont on est porteur, un certain nombre de mots d'ordre, un certain nombre d'obligations qui nous ont été transmises de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit vivre, dont on n'est pas forcément conscient, qui vont nous animer dans un certain nombre de comportements et ensuite on va rationaliser. Le problème, c'est qu'en rationalisant, on ne sait pas qu'on est en train de s'éloigner de la source de la chose. Bon, et on verra encore plein d'autres mécanismes de défense. Alors, donc, dans la cure, il y a deux points très délicats à gérer. Comment faire avec les mécanismes de défense, puisqu'ils sont justement là pour empêcher de trouver l'origine même des choses. Et l'autre point, c'est le transfert. Transférer quelque chose, c'est le prendre d'un côté et le porter ailleurs. Je transfère un canapé que j'avais dans ma cave et je l'installe dans un appartement. Donc, transférer, c'est transporter d'un côté à l'autre. Or, nous transférons tous les uns les autres des choses de notre passé sur le présent. Ce qui fait que quand on voit le présent, bon, mettons, j'ai affaire à mon patron qui est assez autoritaire, etc. Mais si j'ai dans ma tête la représentation d'un père qui était violent, indifférent, à qui il fallait céder à tout prix, eh bien du coup je vais surcharger la relation avec mon patron de cette image d'enfance, mais je ne sais pas que je suis en train de le voir à travers mon filtre d'enfance. C'est-à-dire qu'en fait pour nous tous, c'est assez difficile d'avoir affaire vraiment au présent. On a affaire au présent. Mais on ne sait pas dans quelle mesure il est truffé de passé, quoi. Si j'ai eu affaire à une mère qui était assez intrusive, qui venait dans ma chambre, qui vérifiait ce que j'avais écrit dans mon journal personnel, je vais me sentir beaucoup plus facilement intrusé par les gens avec qui je suis en relation. Donc ça s'appelle le transfert. C'est-à-dire qu'en fait, on a une difficulté à voir le présent au présent. On a un présent qui est truffé de passé. Quand dans la cure, la personne est porteuse d'un transfert négatif, et forcément il y en a du transfert négatif, parce que sinon le négatif qui nous gêne ne pourrait pas être traité, donc si la personne est porteuse d'un transfert négatif, elle va voir son thérapeute, son psy, sous un angle négatif. Par exemple, si j'ai eu affaire à un parent très intrusif, la moindre parole de mon psy va être perçue comme une intrusion, va être insupportable. Ah, il ferait mieux de se taire, mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça? Etc. Du coup, en psychanalyse classique, par exemple, une des difficultés très délicates, c'est que celui qui est dépositaire du transfert est en même temps celui qui doit l'interpréter, celui qui doit le montrer, qui doit démêler le présent du passé. Donc si par exemple le psy est recouvert d'un transfert négatif, comme un parent intrusif ayant toujours tendance à vouloir imposer ses idées, alors lorsque le psy va interpréter ou tenter d'interpréter, dire mais peut-être la façon dont vous me voyez, c'est quand même, ça ressemble bien à ce qui se passait avec votre mère. Il y a de très fortes chances pour que le patient se dise, ah ben oui, tiens, même avec lui, c'est encore des intrusions insupportables, qu'il le recadre à nouveau à l'intérieur de son transfert négatif, plutôt que de l'entendre comme une interprétation juste de la réalité. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait la difficulté en psychanalyse classique, c'est que celui qui est dépositaire du transfert est en même temps celui qui en est l'interprète. D'où le fait qu'il est obligé d'y aller par tout petit, petit pas, et d'où la nécessité de séances plus nombreuses et sur un temps plus long. Alors, avant de vous expliquer comment on va traiter ces deux points délicats, les mécanismes de défense et le transfert, un mot sur le rêve éveillé. Le rêve éveillé, c'est une expérience particulière dans laquelle on est en train de voir des images qu'on n'a pas forcément choisies, qui viennent, qui s'imposent, qu'on accepte de laisser venir, et dans laquelle on est en même temps plongé dans le scénario, c'est-à-dire on est en même temps présent dans cette scène. Donc on la voit, mais on la vit aussi, et au fur et à mesure qu'on la voit et qu'on la vit, on la verbalise. On l'a dit à son thérapeute. Donc on fait une expérience polyvalente où il y a du voir, du vécu et de la verbalisation. Ce qu'il y a d'intéressant dans le rêve éveillé, et c'est une différence avec une visualisation habituelle, ce qu'il y a d'intéressant dans le rêve éveillé, c'est que si on accepte de laisser venir ce qui veut se dire, c'est un peu comme si on donnait une pâte à modeler à l'inconscient qui, lui, va présenter des scènes qui sont exactement similaires à des situations traumatiques de notre histoire. Comme dans le rêve nocturne, sauf que dans le rêve nocturne, on n'est pas éveillé, donc du coup, on ne peut pas changer quelque chose, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas être présent. Il n'y a pas de moi adulte qui est présent en même temps que le moi infantile. On reviendra à tout ça. Dans le rêve éveillé, il y a le moi infantile qui est en train de revivre des choses. Il y a le moi actuel qui est présent dans la scène et qui lui-même est appuyé sur le lien avec le thérapeute. Vous verrez l'intérêt de tout ça. Donc c'est assez différent d'une rêverie, par exemple. En fait, c'est différent de plein de choses. C'est différent d'une rêverie. Une rêverie, c'est marqué par le désir conscient. Par exemple, j'imagine que j'ai gagné le loto, alors je me vois en train d'acheter un château, d'avoir une belle piscine devant, etc. Je le vois et je le vis. Mais en fait, c'est une rêverie parce que c'est marqué par mes désirs conscients. Ce n'est pas laisser venir ce qui veut se dire. C'est assez différent aussi des visualisations de toutes sortes qu'on trouve dans différentes approches, où on va essayer de visualiser du positif pour pouvoir se sentir mieux, ou bien de visualiser une performance sportive pour mieux la réaliser, etc. Parce que tout ça, c'est marqué par des choix conscients. Là, c'est plutôt assez proche de ce qu'on pourrait vivre dans un rêve nocturne, sauf qu'on est réveillé. On reverra comment tout ça fonctionne. Alors, l'intérêt de ces visualisations, malgré tout, indépendamment du rêve éveillé, c'est que aussi, même quand ce n'est pas du rêve éveillé, même dans les tests projectifs ou autres, c'est que les images vont beaucoup plus loin à l'intérieur de nous que ce qu'on pense. Ce n'est pas pour rien que les publicitaires utilisent les images massivement. Pourquoi ? Parce que la pensée du petit enfant, avant 18 mois, avant qu'il ait la parole, avant qu'il exprime ce qu'il ressent à travers des mots, etc., eh bien, c'est une pensée en image. Donc, on a tous une sorte de pensée en image qui est sous notre pensée verbalisée habituelle. Et pour peu qu'il y ait des images qui viennent faire tilt, elles vont souvent beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Alors, un exemple du fait qu'on a des pensées en images qui sont juste là, sous la barre, c'est par exemple si j'ai une forte fièvre. Je vais commencer à avoir des images, à délirer, à avoir une sorte de scène imaginaire où je suis en train d'être pris dans des situations. Bon, ça c'est des images, une pensée en images. Ou bien quand on s'endort le soir, par exemple, si vous faites attention au moment où vous vous endormez, il y a un moment précis, juste avant qu'on tombe dans le sommeil, qui s'appelle les images hypnagogiques. Je ne sais pas si vous avez pu faire cette expérience. C'est-à-dire, il y a un moment où ça commence à venir. Il y a des images qui viennent, qu'on n'a pas choisies, qui sont des images non choisies. Tiens, c'est étrange. Pourquoi est-ce que je vois ça? Eh bien, c'est un peu la même idée. En rêve éveillé, on laisse venir des images non choisies. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la patiente qui, en rêve éveillé, était dévorée dans un souterrain par un énorme rat et une énorme araignée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience-là? Il se passe que le rêve éveillé est une représentation bis qui est liée symboliquement à la représentation interdite. Pour le psychisme de cet enfant, et donc de cet adulte aussi en cure, c'est impensable de se dire « mes parents ont été destructeurs ». En plus, ce n'est pas forcément vrai, mais c'est comme ça que l'enfant l'a vécu. C'est impensable de se le dire. Par contre, elle peut se dire « je suis dévoré par un rat et par une araignée ». Donc, si vous voulez, un peu comme si le rêve éveillé contournait le mécanisme de défense en donnant exactement la scène dont la personne est porteuse, mais sous une forme symbolique, sous une forme distanciée. C'est-à-dire qu'elle voit la scène, elle la vit, elle la verbalise, mais elle est en même temps à la bonne distance par rapport à la violence que cela représenterait si elle se retrouvait vraiment avec la scène infantile. Donc cette représentation bis a un double intérêt, c'est que d'une part elle met en scène ce dont on est porteur, en contournant le mécanisme de défense, et d'autre part elle draine les affects qui étaient liés à la représentation interdite. C'est-à-dire par exemple, dans ce rêve éveillé, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'impression de mourir, l'impression d'être livré sans pouvoir. D'une certaine manière, tous les affects qui étaient liés à la représentation, qui ont fait qu'il a fallu absolument l'oublier, se raccrochent et se déposent dans un lieu qui est similaire à la représentation interdite. Et ils trouvent enfin un endroit où se raccrocher, parce qu'ils ne savaient pas où se raccrocher ces affects. Et là, ils se raccrochent à quelque chose qui est suffisamment proche de la représentation interdite pour pouvoir être déposé là, d'où le fait que la représentation interdite devient moins interdite pour le moi puisqu'elle n'est plus surchargée de tous les affects violents dont elle était porteuse auparavant, la représentation refoulée. Et du coup, ces représentations interdites vont pouvoir revenir plus facilement. Exemple, cette personne dans la semaine qui a suivi ce rêve éveillé du rat et de l'araignée, eh bien, il lui est revenu un souvenir douloureux remontant à l'âge de 4 ans, comme je vous l'ai expliqué. Donc vous voyez que, sans avoir eu l'interprétation de ce qui se passait vraiment, il n'empêche que la personne, d'une part, elle se rapproche de la zone traumatique, et d'autre part, elle peut retrouver des représentations refoulées précédemment. Du coup, elle va pouvoir progressivement se rapprocher des zones traumatiques problématiques. L'intérêt du rêve éveillé, c'est que justement, il contourne les mécanismes de défense et qu'il donne à la personne la possibilité d'apercevoir, sous une forme symbolique et masquée, ce qui s'est passé pour elle. Et pas seulement de l'apercevoir, mais de le revivre, parce que là, elle est plongée dedans. Et du coup, et là c'est la richesse du rêve éveillé, de le terminer autrement. Parce que de séance en séance, la personne va pouvoir revenir sur des scènes de cet ordre. Ça ne sera pas forcément une araignée, mais ça va être une vieille sorcière qui va la capturer, ou je ne sais quoi. Et comme il n'y a pas que son psychisme infantile qui est en train de revivre, mais il y a aussi son psychisme adulte qui est présent dans la scène, elle va pouvoir donner de l'énergie, de la force et du courage au psychisme infantile. C'est-à-dire dire, bon ben la prochaine fois je me débrouille pour faire face. Je vais peut-être lancer un filet sur l'araignée ou sur la sorcière, et puis l'empêcher de nuire, et puis je vais peut-être la tuer, la découper en morceaux, enfin bref. Autrement dit, l'alliance du psychisme infantile en train de revivre les choses et du psychisme adulte en train de les revivre avec lui, mais avec ses forces à lui, va pouvoir, de rêve éveillé en rêve éveillé, amener une expérience transformatrice, restauratrice. Donc c'est comme si je revenais sur les scènes oubliées, traumatiques, et que je les terminais autrement, ce qui est une richesse extraordinaire, c'est une chance extraordinaire d'une certaine manière, et sans forcément avoir besoin d'interprétation claire. L'essentiel, c'est de le faire d'une certaine manière. À un moment donné, je vais pouvoir avoir l'interprétation et trouver le sens, mais ce n'est pas le plus urgent. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait, par exemple, dans les thérapies avec les enfants, s'il y en a parmi vous qui ont des thérapies avec des enfants. Je me souviens d'un enfant que j'avais eu en thérapie, pas très longtemps d'ailleurs. Son père était mort brutalement. Son tracteur s'était retourné sur lui. Ça arrive des fois dans les campagnes. Donc ce garçon avait 9 ans, et son père était mort du jour au lendemain, tué par son tracteur. Donc sa mère l'amène, et je lui parle pas du deuil de son père, parce que ça serait trop douloureux, ça serait revenir justement sur ce qui est disséquant, destructeur, tellement douloureux. Alors je lui propose de faire un dessin. On met à distance, comme dans le rêve éveillé où on met à distance. Sur le dessin, qu'est-ce qu'il dessine? Il dessine une maison dont le toit a été écroulé, parce qu'un gros arbre est tombé dessus. Ce qui évidemment représente la situation de son psychisme, où il a été détruit, abîmé, par la mort brutale de son père. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas lui dire « Tiens, c'est la représentation de la mort de ton père. » Non, on va faire évoluer le dessin de séance en séance. Comment faire avec cet arbre? Comment est-ce qu'on peut le découper? Est-ce qu'on peut transformer cet arbre en bois utile pour le foyer? Comment est-ce qu'on va reconstruire la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir donner de l'aide pour remettre le toit d'aplomb? Etc. Et le gamin, il a fait évoluer comme ça son dessin, son histoire, sans qu'on parle de sa situation. Et à la fin, il y avait nettement quelque chose qui était plus rétabli à l'intérieur de lui. Ça n'empêchait pas complètement la douleur, parce que de toute façon, le deuil, c'est douloureux. Mais il y avait quelque chose qui s'était repris, qui était suffisamment confiant sur le fait qu'on pouvait faire évoluer les choses. Peut-être qu'on a dû parler tout à la fin de la mort de son père. Mais finalement, le plus important, c'était le travail évolutif des dessins. En l'occurrence, c'est pareil pour les rêves éveillés. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément comprendre ce qui est en train de se dire, mais elle va faire une évolution des rêves éveillés. Et l'intérêt de cette espèce de pâte à modeler qui est donnée à l'inconscient pour exprimer ce qu'il veut exprimer, c'est qu'il peut même exprimer des choses qui ne sont même pas de notre histoire, qui sont du transgénérationnel. Vous savez qu'on peut être porteur d'un secret transgénérationnel, et que ce n'est pas forcément accessible, et pourtant ça nous mine. Eh bien, quelque part, à partir du moment où c'est là, ça va pouvoir se vivre grâce au rêve éveillé. Je vais vivre un drôle de scénario bizarre dans lequel un type tue et viole une femme et je sais pas pourquoi et je vais m'interposer, etc. Et bien, d'une certaine manière, sans le savoir, je suis en train de revivre et de terminer autrement un secret transgénérationnel dont je suis porteur. Or, il semblerait que les secrets transgénérationnels dont on est porteur soient toxiques. D'après certains, il faut 3 générations pour faire un psychotique. Un truc très grave qui se passe là. Ensuite, là, le secret qui s'enquiste. Et enfin, à ce 3e niveau, là, le secret qui se dit sous forme de délire. Même si c'est un peu simpliste et que c'est pas forcément comme ça, il n'empêche qu'il y a des choses dont on est porteur et qui ont besoin d'être nettoyées, d'être terminées autrement. Or, comment savoir qu'on en est porteur? Comment les retrouver? Comment les terminer autrement? Comment savoir? Comment les retrouver? Comment les terminer? Toutes ces questions sont résolues par le rêve éveillé. Et pas seulement par le rêve éveillé, mais par le rêve éveillé restaurateur. Par le fait que le psychisme va transformer, restaurer, comme mon gamin qui a réparé le toit de la maison. D'où le clin d'œil qui est le nôtre quand on parle entre nous du RER, rêve éveillé restaurateur. C'est-à-dire, avec la SNCF, le RER, ça permet d'aller vite. Eh bien, le RER, le rêve éveillé restaurateur, permet effectivement d'aller beaucoup plus rapidement vers l'essentiel et vers le nettoyage essentiel que dans une psychanalyse classique. Donc, je vous disais qu'il y avait deux points délicats à résoudre qui étaient comment contourner les mécanismes de défense et permettre que les zones traumatiques oubliées, refoulées, interdites, tellement douloureuses, soient quand même approchées, malgré les mécanismes de défense. Ben là, elles sont approchées de cette façon. Et le deuxième point, c'était le transfert. Si je suis, par exemple, en psychanalyse classique, où il y a deux pôles, le thérapeute et le patient, si je suis en même temps, inconsciemment, pour le patient, l'araignée ou le rat qui risque de le dévorer, évidemment que le patient est plutôt méfiant, quoi. Qui ne va pas facilement lâcher, ouvrir, puisque je suis en même temps derrière lui, peut-être ce rat qui va venir le dévorer. Inconsciemment, évidemment. Donc, du coup, si le psy est porteur de ce transfert négatif, c'est très difficile. Alors que dans la cure R, comme je vous l'ai expliqué, on a trois pôles. Il y a le patient, le thérapeute et le rêve éveillé. Eh bien, ces deux pôles-là vont s'interroger ensemble sur ce troisième pôle-là. Tous les deux, on va pouvoir beaucoup plus facilement être à la bonne distance du rat et de l'araignée parce qu'on en parle et que c'est déposé là. Autrement dit, toute une partie du transfert négatif est déposée sur les symboles du rêve éveillé. Et du coup, le transfert peut être plus léger, plus positif avec le thérapeute. On peut avoir une sorte d'alliance de travail ensemble. Et on peut plus facilement faire évoluer l'histoire grâce au fait que l'alliance de travail est relativement dépouillée du transfert négatif. Mais ça suppose que le pôle rêve éveillé soit bien investi. Donc c'est important que ce soit bien investi. Parce qu'à ce moment-là, pour le patient, ça devient aussi intéressant de venir faire du rêve éveillé que de venir voir son thérapeute. À la limite, le patient se dit « Qu'est-ce que ça va me raconter ce coup-ci » Il est intéressé par cette espèce de miroir. Miroir, gentil miroir, dis-moi mes mystères et mes ombres. Bien sûr, on ne fait pas du rêve éveillé à toutes les séances. On en fait et ensuite on réfléchit ensemble, on tourne autour. Mais il n'empêche que pour le patient, s'intéresser à son rêve éveillé, c'est faire sa tâche par lui-même. C'est-à-dire d'une certaine manière, il est plus actif dans sa cure que s'il attendait les interprétations du psychanalyste. Il est en train de tourner autour du sens de ce que peut bien lui dire ce miroir intérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, je vous en ai parlé, du travail métaphorique. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément interpréter en clair. On va danser autour. On va dire, tiens, qu'est-ce qu'il veut ce rat? Et qu'est-ce qu'elle veut cette araignée? Et qu'est-ce que pourrait faire cette femme? Comment ça se fait qu'elle est figée comme ça? Etc, etc. Donc d'une certaine manière, on approche du sens au plus près, quoi. Il n'y a plus qu'une petite feuille de cigarette à la fin pour trouver le sens finalement de ce qui se dit là. Mais pendant longtemps, on fait ce qu'on appelle consteller le préconscient. C'est-à-dire, on est presque au point de comprendre ce qui est en train de se dire, sans se le dire d'une façon ouverte. L'intérêt de ça, c'est que le patient, plus tard, et même dans la cure, il prend l'habitude de faire attention à ses propres messages et d'essayer de les comprendre au fur et à mesure qu'il a l'habitude de travailler sur ses rêves éveillés. Et donc, du coup, il est beaucoup moins dépendant des idées, du supposé savoir, que serait le thérapeute. Ce qui fait que, ultérieurement, après la cure, en fin de cure, il y aura une sorte d'habitude et d'accoutumance à faire attention à ses propres messages internes, et pas seulement avec le mental. et aussi avec tout ce que dit le reste en moi. Parce que quand on est avec les rêves éveillés, on découvre quoi ? On découvre qu'une vérité importante de moi-même n'est pas dans ce que je me raconte, mais est dans un autre secteur et dans quelque chose qui se dit autrement. Donc ça veut dire que je me décentre de mon mental habituel au profit de l'attention à autre chose de moi, qu'on pourrait appeler le soi ou autre, on y reviendra. Autrement dit, les deux choses qui vont faire changer vraiment les expériences de base, c'est d'une part les rêves éveillés, restaurateurs en particulier, et d'autre part le fait que le lien avec le thérapeute reste bon et stable, malgré les aléas qu'il y a toujours dans toute cure et malgré ce que suscite le transfert ou que se cherche à susciter le transfert. Du coup, il y a quelque chose qui va être intériorisé ultérieurement comme une sorte de bon pilier, de bon parent. Donc il y a deux endroits qui vont faire bouger les choses. Il y a le rêve éveillé restaurateur et l'expérience d'un thérapeute stable et bon qui reste bienveillant quoi qu'il arrive. Et ça, c'est plus facile à faire dans ce système tripôle. Le contre-transfert, c'est ce que ressent le thérapeute qui lui indique ne pas jouer le jeu proposé, si c'est un jeu névrotique. Donc du coup, il va rester à la bonne distance pour ne pas rentrer dans ce qui pourrait être la répétition névrotique de la personne. Alors, vous voyez qu'avec ce système-là, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Il y a ce qu'on appelle la relation d'équivalence, c'est-à-dire une sorte de travail en commun entre le thérapeute et le patient. Le but, c'est de retrouver les traumatismes, les revivre et les terminer autrement. Il faut les revivre. On ne peut pas terminer quelque chose qu'on a vécu sans le revivre et le terminer autrement. Si juste on le sait et qu'on réfléchit dessus, il y a quelque chose qui n'est pas complètement pertinent. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont fait une longue psychanalyse et qui ont ce qu'on appelle le caractère psychanalytique. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont tout compris, qui interprètent brillamment leurs rêves nocturnes, etc., mais qui ont très peu changé. Parce qu'elles ont compris, mais qu'elles n'ont pas revécu. Il faut revivre et terminer autrement. Là, à travers les rêves éveillés et à travers le lien avec le thérapeute, il se passe une nouvelle expérience restauratrice qui va donner quelque chose d'apaisé, ce qu'on appelle transformer les imagos internes de base. C'est comme si on avait désormais des sortes de bons parents internes, des sortes de bons repères internes. On n'est plus obsédé par des choses violentes qu'on a vécues et qui étaient mal terminées, mais quelque chose qui s'est apaisé. Et donc, du coup, c'est un peu comme si on avait atteint une sorte d'équilibre différent. Alors, ça va donner que ces nouvelles expériences restauratrices vont transformer les expériences de base et que, du coup, tout le reste va se transformer. Disons, ce qui est assez intéressant, c'est de comparer, par exemple, avec un abcès. Si vous avez un abcès profond, vous avez de la fièvre, vous avez des tremblements, vous avez de la fatigue, vous avez je ne sais quoi. On pourrait donner un médicament contre la fièvre, donner un médicament contre les tremblements, donner un médicament contre la fatigue, etc. Provisoirement, ça irait mieux, mais ça ne tiendrait pas. Ou alors on ne s'occupe pas de tous ces symptômes et on donne simplement un traitement antibiotique pour l'abcès de base. Et à ce moment-là, tout le reste change. Je n'ai plus de tremblements, je n'ai plus de fatigue, etc. Bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, une fois qu'on a commencé une cure, on va être moins centré sur les interactions quotidiennes, même si on en parle encore. Je me suis engueulé avec mon mari, ou ma mère me téléphone pour me dire des trucs négatifs, etc. Et on va être plus centré sur la symbolisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve? Pourquoi l'héroïne réagit de telle ou telle manière? Tiens, elle évite systématiquement de rentrer dans cette espèce de grotte qui l'attire. Est-ce qu'elle ne pourrait pas le faire? Etc. Donc on va travailler sur ça. Et du coup, ça va donner des changements dans tous les secteurs. Ce qui est intéressant à voir, à constater, c'est que quand ça commence à changer, assez souvent, ça change partout en même temps. La personne se sent mieux dans ses relations, dans son boulot, dans sa façon de s'affirmer. Un peu comme si tout changeait en même temps. Mais des fois, dans un premier temps, la personne, elle dit « C'est curieux, depuis que je viens ici, qu'est-ce que mon mari change ? Ou qu'est-ce que mes collègues changent ? C'est curieux, moi je bosse et c'est eux qui changent. » En fait, bien entendu, c'est parce que la personne change elle-même. Ces nouvelles expériences restauratrices amènent le restant. Donc, mettons pour reprendre un exemple déjà donné d'un traumatisme infantile d'abandon et son cortège de séquelles, la personne peut faire l'expérience à travers ses réveillés, à travers son lien avec le thérapeute, que le lien durable, bon, l'amour, est fort et n'est pas brutalement arrêté, contrairement à ce que son expérience infantile avait gravé en elle. Donc du coup, elle peut avoir la croyance qu'elle va pouvoir réaliser une relation amoureuse, stable et bonne. Du coup, elle ne va plus être obsédée par réussir à tout prix à éviter la rupture, et elle sera plus dans être elle-même et savourer la vie telle qu'elle est. Donc son filtre sera beaucoup moins présent. Elle pourra se dire, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas, moi je m'occupe plutôt des gens qui m'aiment. Et alors son comportement sera différent. Elle ne sera pas ou trop collée ou trop à distance. Et en conséquence, elle va avoir des bénéfices et une relation satisfaisante, conforme à son expérience de base renouvelée, changée et transformée. Là aussi, il y aura de la répétition, sauf que ce sera du coup de la répétition positive. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a changé ? On a changé les expériences de base et le reste de la vie change. Et ça, c'est le but profond pour nous tous, d'arriver à ce que le logiciel de base soit débugué en termes informatiques et que du coup, on puisse fonctionner avec des points de vue, des relations satisfaisantes. Être capable déjà d'aimer travailler, par exemple. Mais il y a d'autres registres, c'est juste pour dire qu'une fois qu'on n'est plus obsédé par tout un tas de trucs inconscients qui nous minaient, eh bien on est beaucoup plus présent, avec beaucoup plus d'énergie, puisque les mécanismes de défense qui nous prenaient tant d'énergie sont beaucoup moins lourds désormais. Je ne serai pas obligé de lutter contre moi-même, puisque j'ai vu, reconnu et traité en les transformant les zones, ces zones-là. En psychanalyse réveillée, au tout début, on ne néglige pas l'intérêt des thérapies brèves, parce qu'il est utile quand les gens vont mal et qu'ils viennent, qu'ils sont souffrants, d'aller rapidement mieux, qu'ils trouvent rapidement l'espoir et la confiance dans leurs propres capacités. Vous savez, il peut y avoir très vite quelque chose qui va changer si on fait des interventions pertinentes. Donc on fait quelques séances de thérapie brève pour aider la personne à se récupérer. Et du coup aussi, ça lui permet de sentir qu'avec ce thérapeute-là, elle est entendue dans toutes ses dimensions, y compris dans « je veux aller mieux tout de suite ». Par exemple, une des techniques de TBSI, c'est le recadrage. Le recadrage, ça consiste à voir le problème sous un autre angle. On n'a pas changé le problème, on le voit sous un autre angle, et des fois, ça suffit à le résoudre. Donc, on néglige pas ça, simplement, on n'en reste pas là. Éventuellement, dans un deuxième temps, on va faire quelques séances plutôt cognitives, c'est-à-dire branchées sur les pensées destructrices du bourreau interne pour essayer que la personne soit moins soumise à ça. Mais, bien entendu, ça ne réglera pas le noyau de culpabilité sous-jacent. Et puis, si la personne est prête et si elle a envie à ce moment-là, eh bien, on va rentrer carrément dans une analyse réveillée. Et là, ça sera différent. La personne va se mettre en divan, et puis on va commencer progressivement à faire des rêves éveillés, à travailler sur le rêve éveillé, à la manière métaphorique dont je vous ai parlé. Et progressivement, on arrive à la fin de la cure. Alors, encore un autre intérêt du rêve éveillé, c'est qu'on voit l'évolution des rêves éveillés. La personne les voit, elle les note, ces rêves éveillés. On lui demande de les noter, puis on les relit aussi. Et elle voit l'évolution des rêves éveillés. Quand on fait une psychanalyse classique, bon, je ne sais pas si parmi vous certains ont fait une psychanalyse, On sent que ça bouge, mais on ne pourrait pas vraiment dire pourquoi. Très difficile de savoir à quel moment ça a bougé et pourquoi ça a bougé. Là, l'intérêt, c'est qu'on a quand même les balises que représentent les rêves éveillés, et les rêves éveillés montrent bien certaines évolutions. Alors, je vais vous donner un exemple. J'avais un patient, un type très contrôlé, célibataire, avec une vie pulsionnelle extrêmement limitée, souffrant d'angoisse et aussi d'obsession. Son premier rêve éveillé, c'est le suivant. Il est sur une planète inconnue, irradiée, où toute vie a disparu, et lui-même, il est dans un scaphandre, et il survit grâce à l'eau et à la nourriture qu'il a à l'intérieur de ce scaphandre. Donc, d'une certaine manière, son premier rêve éveillé montre la situation psychique dans laquelle il est. Et son dernier rêve éveillé à la fin de sa cure, il se promène dans la jungle, il y a des fruits qu'il cueille au passage, il y a des animaux avec qui il est en relation très sympa, il va vers une tribu primitive qui a prévu un rituel spirituel dans lequel il a une place. Enfin bref, tout est différent. On voit bien l'évolution, à quel point la vie intérieure a changé. Mais bien entendu, ça c'est un des critères majeurs. Mais il faut aussi que tout le reste soit confirmé. C'est-à-dire qu'effectivement, cet homme dans sa vie avait créé une relation amoureuse, envisagé de changer de travail pour un truc moins branché sur le contrôle. Il avait réellement un changement dans sa vie. Et dans sa vie intérieure, beaucoup moins de défense, de mécanismes de défense lourds. Et dans sa vie extérieure, la perte des anciens symptômes et la réalisation de choses qu'il n'avait jamais faites précédemment. Donc, comme je l'ai évoqué, on a quatre critères pour dire, ben oui, c'est fini. Premier critère, évidemment, c'est est-ce que ça change? Est-ce que la personne va mieux? Est-ce qu'elle est contente dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Deuxième critère, l'évolution des rêves éveillés. Et on voit bien comment ils disent où on en est. Troisième critère, l'évolution des rêves nocturnes. Parce que quelquefois, même assez souvent, on a une sorte d'écart entre rêve éveillé et rêve nocturne pendant un certain temps. Par exemple, quand la personne en rêve éveillé, du fait qu'il y a le moi adulte qui est présent, commence à changer dans la scène elle-même, elle affronte des trucs qu'elle n'affrontait pas avant, etc. Et elle sent la puissance qui en découle, l'énergie nouvelle qu'elle trouve. Et mince alors, dans la nuit qui suit, elle fait un rêve nocturne qui, lui, continue à être sur le mode précédent. C'est-à-dire, par exemple, elle est poursuivie par tel ou tel personnage dangereux, etc. Donc il y a un écart entre le rêve éveillé qui a déjà marqué l'évolution et puis le rêve nocturne qui raconte l'ancienne histoire. Et puis au bout d'un moment, les rêves nocturnes se raccordent avec les rêves éveillés, puisqu'on est dans le même registre symbolique. Et donc il y a quelque chose qui évolue dans les rêves nocturnes eux-mêmes aussi. C'est-à-dire quelque chose qui change. Dernier critère, l'allègement de la charge transférentielle au profit d'une relation d'équivalence, même si la relation reste malgré tout marquée de gratitude et de bons souvenirs. D'ailleurs, à propos des rêves nocturnes, on a été assez intéressé, le monde occidental, par la découverte d'un peuple qui s'appelle les Senoi, un peuple en Indonésie qu'on a appelé le peuple du rêve, et qui vivait à une manière primitive depuis très très longtemps. Sauf que ce peuple, c'est le seul qu'on connaisse qui était complètement centré sur le rêve. Toute la vie du peuple était orientée en fonction des rêves que les gens avaient faits la nuit. Et il y a un certain nombre de choses qu'on a apprises, par exemple, qui ont été bien claires par la retransmission de leur savoir. Par exemple, une des choses qui se raconte le matin, quand il se raconte les rêves, si l'enfant dit « Cette nuit, j'ai été poursuivi par un tigre terrible et j'ai été obligé de me protéger dans un rocher et j'avais peur. » Les parents lui disent « La prochaine fois, dès que tu peux, tu te retournes et tu l'affrontes. » Ce qui, normalement, n'est pas raisonnable parce qu'affronter un tigre féroce... Mais dans les rêves, on peut. Eh bien, si on fait ça, on voit évoluer le symbole. Par exemple, j'avais un patient qui, toutes les nuits... Il avait des nuits fatigantes. Toutes les nuits, il était poursuivi par un taureau furieux. C'était des nuits fatigantes. Un jour, on en avait parlé donc assez longuement. Un jour, il décide de se retourner, tant pis. Le taureau furieux lui fonce dessus. Alors le taureau arrive, et puis au fur et à mesure qu'il s'approche, le taureau s'est transformé en bélier, et puis quand il est arrivé aux pieds de cet homme, c'était un petit chien. C'est-à-dire le simple fait de s'être retourné avait fait transformer le symbole. Eh bien ça, finalement, c'est une règle générale. C'est-à-dire que si on fait face à une situation, la plupart du temps, elle apparaît ensuite progressivement beaucoup moins difficile que ce qu'elle semblait, tant qu'on ne voulait pas la voir. D'ailleurs, ça me fait penser, mon patient qui était dans son scaphandre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il avait aussi un rêve récurrent où il était poursuivi comme ça la nuit, mais il ne savait pas par qui. Alors je lui dis, peut-être que vous pourriez vous retourner si vous pouvez. Alors il se retourne, il constate qu'il était poursuivi par une très jolie femme. Donc voilà, il y avait l'évolution dans la vie, l'évolution des rêves éveillés, l'évolution des rêves nocturnes, et puis l'évolution du transfert, qui fait que sur la fin, on est vraiment presque comme deux compagnons de travail, quoi. Deux êtres humains attelés à la même tâche. Le thérapeute n'apparaît plus du tout comme quelqu'un qui est supposé savoir et qui est supposé avoir tout trouvé. Quand ça s'est présent, tout naturellement, la personne sent que maintenant, elle n'a même plus besoin de venir, donc elle arrête. Et après, elle a une sorte de thérapeute interne, c'est-à-dire, que j'ai comparé, vous le savez, aux culbutos, ces espèces de poupées qui ont du plomb en bas. On les bouscule et ça revient très vite d'aplomb. Plus tard, quand on a son thérapeute interne, ça n'empêche pas qu'il y a des fois où on va être secoué par la vie, où on va retrouver les anciens plis. Sauf qu'au lieu de basculer pendant 3 mois dans la déprime, je vais basculer pendant 3 heures, ou à la rigueur 3 jours. Et très vite, je vais retrouver mes marques. Il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Je dirais pour terminer que la crise, c'est une chance. Bien sûr, c'est pas marrant. Personne d'entre nous n'aime entrer dans la crise. Mais en fait, il faut reconnaître qu'on avance à travers les crises, parce que c'est seulement quand il y a quelque chose qui est suffisamment en crise qu'on va mettre en question le mode de fonctionnement qui était le précédent. Donc, quelque part, être en crise, c'est une possibilité de se dire « Bon, quelle est la partie de moi que je n'ai pas entendue ou que j'ai sous-estimée ?» Ou bien « À quoi j'ai donné trop d'importance et à quoi je n'ai pas donné assez d'importance ?» Il y a une sorte de remise en question possible grâce à la crise. Et ce que je pense qui est ennuyeux, c'est que souvent dans notre culture, dans notre société, la crise a tendance à être étouffée sous les médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Trop vite, quoi. Mais assez souvent, il vaudrait mieux ne pas aller si vite, se laisser un peu travailler et se dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en question ?» Et puis la crise, c'est peut-être l'occasion justement de faire une vraie démarche libératrice. Donc, pour conclure, je vous souhaite d'être suffisamment en crise.